Ben, on est live, excuse.
Ouais.
Je t'ai gelé. Je venais de recevoir une facture de justement, ça a rapport avec le sujet. Tu as parlé, puis là, whoop, il y a un pop-up. Et voilà, c'est tellement un beau segue, vois des liens. Sur ce qu'on va parler aujourd'hui, puis c'est live-là. Ça ne peut pas être plus live-là. On parle aujourd'hui de la vie d'entrepreneur, puis vous venez d'en avoir un extrait. Tu fais de quoi, puis tu as 45 pop-up, vous devez tant d'argent. Oublie pas cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe avec ce projet-là? À soir, on soupe quoi? Ouais.
À ce prix que le gouvernement est trop dans mes jambes. Ça prend 36 millions de permis. Ah,
si bon. Oui, c'est des permis, oui. Hein, c'est. Fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, gang, on va parler de la vie d'entrepreneur, puis de démystifier la patente, vous illustrer c'est quoi la réalité aussi au Québec de vouloir bâtir ses projets de vie, parce que c'est ce que c'est, surtout quand tu es une PME. Puis peut-être d'avoir un petit cri de ralliement là, pour ce qui est des entrepreneurs qui nous écoutent. Puis là, on dit entrepreneurs, c'est pas juste les ceux-là qui font des cling-cling, paf-paf, drill-drill, zzzz. Comment ça s'appelle dans le sketch à François Pérusse? Monsieur Gallon a mesuré, pouf-bam-bam, bing-bing, c'est réglé. 6-6-3, pif-pif, bang-bang. C'est qu'on parle de ça aujourd'hui.
Yes.
Fucking joy!
Tu vois, je l'ai échappé, j'ai même pas mis mon t-shirt. God damn!
Pas grave. C'est pas grave. À un moment donné, il faut que tu le laves aussi. Là. Fait que,
Peu! Faut que ça sente l'homme, un t-shirt de même. On le remettra la semaine prochaine. Fait que ça, j'ai eu cette idée-là de parler de ça aujourd'hui. Puis pourquoi j'ai eu cette idée-là de parler de ça aujourd'hui? Belle phrase que je viens de répéter en l'espace de 10 secondes. C'est que, ben, hier, une journée presque typique de la vie de Pacal, c'est levé, ben, typique. Qui va devenir de plus en plus typique avec les projets qui déroulent. Mais hier, à 4h30 debout du matin, on a fini à 9h30, torché, lavé, complètement. Alors, torchon, chiffon, alors la carpette. Torchon, chiffon, carpette. Fait que c'est ça, ça me fait penser à ça. Parce qu'il y a énormément de dévouement. Puis ici, c'est un gros processus aussi là, pour ce sujet-là, parce que c'est un sujet à être entrepreneur qui est quasiment tabou. Moi, je suis entrepreneur depuis que j'ai 16 ans. J'ai commencé mes premiers projets, là, j'avais 16 ans quand je voulais... Puis entrepreneur puis homme d'affaires, là, c'est deux affaires complètement différentes. Laissez-moi faire là, homme d'affaires et entrepreneur, c'est pas la même chose. Entrepreneur, ça va être d'avoir des visions, des projets, de la perspective, puis de mettre des actions, des stratégies en action pour pouvoir les réaliser. Homme d'affaires, ça voit des chiffres, pour moi, ça vend des visions, c'est opportuniste, c'est pas nécessairement méchant. Mais je trouve que c'est pas la même chose. L'opportuniste...
Et aussi le fait que tu portes jamais de soute. Fait, disons qu'il y a une différence entre les deux. Là.
Fait que, ouais.
les hommes d'affaires, ça a plus tendance à petit complet avec la petite chemise. Là, c'est, en tout cas...
C'est ça. Moi, je suis plus un... Tu sais, il y a une raison pour laquelle Walt Disney, c'est mon idole. C'est un homme qui a eu une vision, qui a passé à travers de multiples embûches, qui a fait faillite ou qui a été dans la dèche plus qu'à sa...
On le savait, Pascal est antisémite. C'est confirmé, mesdames et messieurs, il aime Walt Disney.
Ça, ça n'a jamais... By the way, ça n'a jamais été confirmé, ça.
Non, c'est une rumeur, mais c'est comme un genre de running gag qui dure depuis je ne sais pas combien de décennies.
Ouais, Family Guy aussi en avait fait des jokes
assez souvent. C'est ça. Ils ont toujours poussé ça un peu, on ne l'a jamais su vraiment, mais en tout cas, c'était assez spécial. Mais ouais, t'as absolument raison, là, tu sais, il y a quand même, il a créé quoi d'extraordinaire à le Walt, à partir de rien.
Ben, c'est ça, c'est à partir de Sweet et Fall, parce qu'il est pas, il est né dans un petit village du Missouri, qui est Marceline, puis dans une famille fermière. Ça fait un bout, là, je vous parle, c'est en noir et blanc. Fini sépia avec pas de sourire, sa photo avec un pitchfork à côté, là. La madame, ce genre de photo-là. Fait que, d'ailleurs, c'est une des meilleures jokes du film A Million Ways to Die in the West. Et toutes les photos au début sont en face, personne sourit. Là, ils se disent t'as déjà fait une photo avec quelqu'un qui sourit, il faut être complètement fou pour sourire sur une photo. J'ai jamais osé. Faut se garder la position pendant très longtemps, le temps que la photo s'imprègne. Là.
Ah, c'est malade. Ce film-là, j'avais été le voir au cinéma. C'était.
Ah, c'est magique, ce film-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, c'est une de mes idoles. Puis là, j'ai la misère à parler ce matin. Je déparle, je suis le café, puis à 6 h du matin, on est debout parce qu'il y avait un cours privé au gym. Mais je pense que la définition d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va mettre un plan d'action en marche pour réaliser une vision. Peu importe c'est laquelle, mais c'est de réaliser son projet de vie. Puis depuis que j'ai 16 ans, chaque passion, je l'ai réalisée. Puis ça a l'air niaiseux, mon premier projet, moi, je voulais devenir lutteur professionnel. C'était ça mon rêve dans la vie, dans le temps. Puis c'était pas comme l'énergie cardio, n'a pas comme à tous les coins de rue, des affaires de même. J'avais pris plein d'étapes, puis fait plein de démarches à 16 ans pour être capable d'ouvrir mon école de lutte à travers le service des loisirs de la ville de Charlebourg dans le temps, là. Fait que c'est les premières fois que tu rencontres des comités de loisirs, puis tu prépares des petits papiers, puis des feuilles, puis...
Ouais, c'est comment les petits papiers au Québec, Pascal?
Ben, pour ça, ce projet-là, c'était correct, là. Ça, c'était au municipal. Mais je veux dire, à travers les projets, puis on va parler du côté humain, puis on parlera après ça du côté administratif. Ce que je veux que les gens réalisent, c'est que c'est énormément d'heures investies dans ton projet. Puis le lendemain, il faut que tu en remettes autant. Fait que dès que tu vas te coucher, ce que tu as fait, c'est quasiment effacé. Puis le lendemain, il faut que tu recommences, mais dans une progression vers l'avant. Puis très, très. En fait, j'ai fait, tu sais, des regroupements d'entrepreneurs. J'en ai fait un puis un autre. Je m'en souviens plus d'un que j'ai fait, là, quelques années. Les leaders, quelque chose, je m'en souviens plus. C'est des amis qui m'avaient invité là-dedans. Puis c'était des regroupements de discussions entre entrepreneurs. Puis souvent, quand j'ai entrepreneur, là, on parle de PME. Puis, tu sais, on devrait quasiment mettre des MPME. C'est pas petite et moyenne entreprise. Ça devrait être micro, petite et moyenne entreprise. Parce que les micro-entreprises, il y en a énormément. Des micros et des petites au Québec, là, ça pullule. Les micro-entreprises, c'est moi avec mon gym. Une personne, deux personnes, une petite famille qui tient sa quincaillerie, sa shop d'ongles, son salon de coiffure, peu importe c'est quoi, là, une micro-entreprise là, où il y a quasiment un groupuscule de personnes qui tiennent la patente là, à bout de bras, là. C'est énormément, énormément. Il y en a beaucoup en restauration là-dedans. C'est énormément de travail pour réaliser ta vision de vie. C'est vraiment ça. C'est beaucoup d'heures. C'est all of the responsibilities, the duties, puis à peu près none of the rewards. Là, ça a l'air gras, mais c'est parce que si tu t'attardes à la balance du retour sur l'investissement présent, oublie ça va t'étouffer. Puis c'est pas un style de vie pour tout le monde. Ça, je suis désolé, mais c'est pas vrai que c'est un style de vie pour tout le monde. C'est pour ça que il y en a pas beaucoup qui choisissent ça parce que c'est un chemin qui est extrêmement tortueux. C'est un grind à tous les jours. C'est un hustle à tous les jours. Ça prend une force de caractère qui est au-delà de la normale. Ça prend une passion qui est au-delà de la normale. Vous allez dire, oh, il est en train de s'envoyer des fleurs. Non, je suis en train de vous décrire la réalité. Puis je le pense assidûment. Il y a la très grande majorité des gens qui préfèrent ne pas vivre avec les problèmes ou les tracas ou les stress ou l'anxiété d'être entrepreneur, pas se casser la tête, faire du 9 à 5 pour une personne X, Y, Z, rentrer chez eux puis peser sur repeat le lendemain.
Ah, puis, d'une certaine façon, il faut aussi, parce que tu sais, on ne peut pas tous être des employeurs, puis il n'y a plus un Christi d'employé. Fait qu'à un moment donné, c'est comme il dit, ça prend des chefs, puis ça prend des Indiens aussi, là.
Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que ça, c'est pas méchant d'être un ou l'autre.
Ah, c'est ça.
Mais un comprend pas l'autre. C'est ça qui est la chose qui revient le plus, puis c'est le chemin que je fais avec les regroupements là, que j'ai fait à travers les années, c'est que le mot qui revient le plus avec les entrepreneurs, c'est incompréhension. Ça m'a vraiment, vraiment frappé. Puis, tu sais, au fil des conversations avec des gens que tu connais pas, là, mais à travers des regroupements, puis là, ça passe, ça jase, ça s'ouvre. Puis, c'est le thème qui revenait le plus souvent. C'était l'incompréhension. Puis l'incompréhension, là, ça allait même à travers les relations intimes, interpersonnelles. C'était un des sujets qu'à un moment donné, dans une réunion, ça parlait. C'était vraiment des entrepreneurs qui, avec le conjoint-conjoint, se sentaient incompris parce que l'autre personne, ben, c'était un employé, c'était une journalière. Fait que c'est des gens qui comprennent pas le grind, c'est des gens qui comprennent pas pourquoi tu fais ça. La fatigue, l'épuisement. Parce que quand tu es entrepreneur, là, la machine n'arrête jamais. Là. Autant, dépendant de peut-être de ton champ d'activité. Mais pour moi, c'est autant physique que mental parce que mon champ d'activité, il est physique. Puis toute la portion stratégique, opérationnelle, c'est du mental. Fait que t'as autant les deux. Tu peux avoir une business qui peut, je sais pas moi, dans l'immobilier, puis tu grind, mais 97% de ton travail, c'est plus mental. Tu peux être en train d'un ordinateur, dans un petit bureau, puis c'est ton travail est très cérébral. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu t'entraînes, puis tu continues à avoir une qualité de vie à travers tout ça. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'il y a une réalité qui est au-delà. Des choses qui me frustraient dans le passé, puis j'entendais d'autres entrepreneurs, c'est souvent, oh lui, on sait bien, là je parle pas de moi, là, mais d'autres personnes que je connais, on sait bien, lui, il est tout le temps parti en vacances. Là, je m'en souviens d'une personne proche de moi. Là. Parce qu'à toi, à tous les 4 mois faciles, 3 mois, 4 mois, c'était à 2 semaines de vacances. Oh, toi, tu es parti en vacances. Puis cette personne-là se confiait à moi en me disant qu'elle était frustrée d'entendre ça. Puis son argument était, puis c'était très valable, c'était très vrai. Mais les personnes qui chialent du fait que je suis tout le temps parti 3 mois, 4 mois, ben, ils passeront une semaine dans mes bottes, voir s'ils sont capables de te faire run, puis ils vont comprendre pourquoi aux 3 mois, pour 4 mois, j'ai besoin de sacrer mon camp. Parce que quand tu fais du 60, 70, 80 heures, un moment donné, il faut que tu sacres ton camp. Quand tu en fais du 30, du 40, tu as peut-être juste besoin de ton 2-3 semaines par année. Puis c'est pas la même chose, là. Quand tu fais du 9 à 5, tu es employé, tu arrives chez vous, puis somme toute, je dis somme toute, tu laisses le travail à la maison. Dans certaines situations, il faut que tu en ramènes, que ce soit mental, que ce soit physique. Mais grosso modo, tu ne vis pas avec le poids de la survie de ton gang-pain, de ton livelihood sur tes épaules à tous les jours. Puis ça, c'est la réalité de l'entrepreneur. Avoir une entreprise, c'est d'avoir un bébé. Puis le bébé, il ne grandit jamais. Il est tout le temps dépendant de toi. Fait que si tu le laisses aller, il va se noyer. Si tu le laisses aller, il va mourir de faim. Si tu le laisses aller, si tu ne le surveilles pas, oups, il va s'égarer, il va se perdre dans le bois. Puis ça, c'est tout le temps, là. Tu vas dire, ah, mais quand ça grandit, tu as des employés. Ah ouais, mais les employés, si tu le laisses aller encore, c'est bien beau, il va avoir les erreurs, il va avoir...
C'est ça, ça grossit, mais ça prend toujours quand même ton management pour gérer ça pareil.
Oui, c'est ça, c'est bien, bien rare, à moins que tu sois très, très, très... On parle de PME, là, tu ne te rends pas à ce niveau-là, là. À moins que tu sois un PDG d'une grande entreprise, mais même à ça, je ne peux pas dire que tu es tout le temps en train de jouer au golf. Hein. Bob Iger, d'après moi, même s'il est PDG de la Walt Disney Company, il ne doit pas passer son temps à manger des sandwichs en triangle en se disant « la vie est belle, on va garder pierre à feu ».
Bon, en tout cas, à date, je trouve... Puis ça, c'est un sujet que je connais plus parce que justement, vu que je suis pas mal avec l'étude de la pop culture, disons ce qui se passe avec Disney, puis Bob Iger, puis Kathleen Kennedy, j'en suis pas mal plus. Là, puis je te dirais que... C'est ça. Disons, contrairement à ce que bien du monde pense, le gars et ses résultats sont pas vraiment impressionnants. En tout respect, là, je dis pas que le gars n'est pas brillant ou qu'il n'est pas intelligent, là, mais on voit clairement qu'il y a une déconnexion complète avec la volonté de ses customers. En tout cas, j'en ferme la parenthèse, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui.
Mais c'est un peu la réalité humaine en arrière de ça. On a besoin de gens pour bien se faire comprendre et des gens pour aider. Moi, je suis privilégié d'avoir une super belle communauté ici à Spartan Fit, des gens crinqués. Puis d'ailleurs, c'est un des sujets que je me disais que je ne voulais pas oublier aujourd'hui. C'est que dans l'étalement, justement, de la progression de mes projets d'entreprise, il y a une progression là-dedans, il y a des visions. Puis là, ça c'est pour ça qu'on est brûlé. C'est une bonne fatigue, hein, qu'ils vont dire. Puis ils ont raison. C'est mieux d'être brûlé parce que ça grandit que de brûler parce que tu es déprimé. Parce que ça ne sert à rien. Mais... j'ai une super communauté qui appuie ces projets-là. Puis dimanche passé, on a fait une hyper belle réussite d'équipe. On a été mandaté en début d'année pour produire la toute première course à obstacles de l'histoire de la ville de Sainte-Julie à travers un projet annuel. Leur activité qui s'appelle Avomarc, qui s'appelait Jog ma ville avant, qui est habituellement la course municipale annuelle. Donc, les gens vont courir du 5, du 10, du 15... vont courir en famille. Donc, c'est un événement où l'activité physique est mise de l'avant. C'est une activité à laquelle on participe depuis qu'on est à Sainte-Julie. Puis cette année, c'est très cool que la ville ait pensé à nous pour développer un tout nouveau volet, puis qui a demandé 3 mois de travail sans arrêt de mon côté, la conceptualisation du concept. Juste pour là, c'est pas pour les fleurs, c'est ce que je vous dis, c'est la réalité derrière tout ça. Des fois, quand vous allez sur votre chez votre commerçant local, chez votre micro-entreprise familiale, de voir qu'ils ont le sourire au visage à tous les jours, mais peut-être que quand tu fermes la porte puis tu quittes, peut-être que c'est un, tu sais, il y a une autre réalité, là, puis que quand c'est marqué on ferme à 17h30 sur la porte du commerce, il y a peut-être aussi eux autres leur deuxième chiffre qui rentre, là, en ce sens que moi, mes soirées depuis mes fins de semaine des trois derniers mois, c'est pas compliqué, ça a été ici dans le gym à construire des obstacles pour le projet. Puis d'avoir une liste là, exhaustive. J'ai commencé au mois de février parce que je savais qu'on avait beaucoup de choses à produire. Essayer de minimiser le coût de production. Moi, d'apprendre dans ma menuiserie. Je suis très chanceux d'avoir une copine qui m'aide à tous les jours. Un gros, gros merci. Une chance qu'elle a dans ma vie. Moi, je crinquais les obstacles en bois, puis c'est elle qui est peinturée. Elle est bien bonne avec le rouleau. Puis...
Chérie, t'es bonne avec le rouleau.
On repasse une deuxième couche, regarde-moi dans les yeux. Que...
Il manque une petite épaisseur sur le coin ici, là.
Ouais, roule en haut, roule en bas, ah ouais, roule en haut, roule en bas, ah ouais, longe pas, let's go.
Triple épaisseur, vas-y.
Une triple épaisseur. On se reprend dans 4 heures quand tout va être sec et lavé. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce voix-là pour ce personnage-là, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça qui a été le point culminant dimanche passé. On avait une température de kika, faisait fret, il pleuvait, c'était dégueulasse comme température, mais on a eu plein de participants. Fait que, un, félicitations aux participants qui se sont présentés, qui ont été très courageux. Surtout à ma gang, il y en a plusieurs qui étaient là à 5 heures le matin pour faire le montage, tout animer l'activité. Après ça, de faire le démontage puis de laver tous les obstacles parce que tout t'a trempé. Hey, on a fini la journée, là, on était de même, là, de 5 heures à 12 heures. Puis ils ont fait ça bénévolement. Là. Fait qu'un gros, gros merci à ma gang. C'est une gang, il y a juste une gang pour faire ça puis c'était la nôtre. C'est des gens qui ont gardé leur énergie, leur sourire. Je ne dirai jamais assez à quel point j'aime et j'apprécie notre groupe ici. Là. C'est des gens
Je n'ai jamais posé la question, Pascal. Vous êtes comment à Port-Trou, bien évidemment, là, à Spartan Fit, puis ta gang, tu aimes beaucoup d'employés ou t'es...
Il y a un employé.
OK.
C'est moi qui fais tout depuis 3 ans. J'ai eu des gens qui m'ont aidé. J'ai des gens qui ont été coach, assistant coach, qui peuvent donner un cours une fois par semaine, deux fois par semaine. J'ai des gens qui ont aidé énormément.
Malheureusement, tu peux pas encore te dédoubler, fait qu'il faut que vraiment tu travailles avec quelqu'un d'autre. Mais
alors, c'est ça, il faudrait que je me dédouble, c'est ça la chose. Puis là, je suis chanceux, j'ai des gens qui s'impliquent, qui aident sur les projets, mais 97% du travail, je le fais seul. Ça inclut le stratégique, ça inclut l'opérationnel, ça inclut le sportif, ça inclut toutes les tu sais, il y a certains entrepreneurs qui sont d'un certain type. Moi, je suis un entrepreneur qui est très actif, qui a énormément de perspectives et de visions. Je veux dire, encore une fois, il se lance des fleurs. Non, j'ai tout le temps été ça. Comme je vous l'ai dit, depuis j'ai 16 ans que je vois des projets, que je réalise des choses.
Ouais, puis aussi, tu vois les autres entrepreneurs, tu vois comment ils agissent, puis tu te rends compte, ouais, il y a du monde comme moi, il n'a pas 36 000. Il y a comme des sous-catégories d'entrepreneurs aussi. Là, c'est, encore là, c'est quasiment comme des poupées russes. Là, t'en ouvres une, t'en as une plus petite, t'en as une plus petite.
Mais en ce sens que... J'ai énormément de créativité, puis ça a été un problème à travers mon cheminement d'essayer d'être employé. J'ai beaucoup de misère à être d'être circonscrit dans un carcan. Ça, c'est moi. Mais là, il sait que ce projet-là, j'ai la liberté de créer ce que je veux, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Qu'est-ce qui est bon? Ben, c'est que je peux créer ce que je veux. Ce qui est pas bon, c'est qu'il faut que j'ai la discipline de me limiter parce que sinon, je serais tout le temps parti dans les initiatives. Puis, j'ai des divisions, j'ai des visions de choses. Donc, ce qui veut dire qu'au quotidien, si je veux que tout grossisse, que le trou progresse, c'est énormément de temps. Donc, c'est un, grâce aux bénévoles, aux gens qui croient en toi, aux gens qui t'entourent, qui te comprennent, qui te donnent du temps, qu'on est capable de survivre. Là, je parle de moi, mais c'est applicable à beaucoup, beaucoup de micro-entreprises. Puis, quand on a eu le début du paiement, parce que ça, là, il y a une affaire que je veux mettre claire, là. Pensez pas que c'est fini la pandémie. Là. Vous n'entendez plus parler parce qu'on veut cacher des choses d'un certain bord. Certains, l'autre bord, ben là, on est en train de repenser encore à des conneries comme les maudits débats de langue, puis X, puis Y, puis Z. Là. des affaires d'actualité qui sont plus ou moins intéressantes ou plus ou moins importantes. Mais du côté des microbes, des petites entreprises, là, sont en train là, de rembourser leurs prêts à l'urgence. Là. Parce que c'était pas un don. Là. Puis il y a eu des débats au début d'année là, du fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disaient « Hey, Christian, on a besoin de plus de temps. Nous, t'en remettre le 20 000 cash comme ça là, ou le 60 000 pour avoir un 20 000 de crédit. » Et oublie ça, on n'est juste pas capable de dégager un 60 000 de bénéfices. Là. C'est pas juste ça. Là. C'est qu'au-delà de tes opérations, au-delà de tes dépenses, au-delà de tes dépenses personnelles, où tu déverses ton salaire pour payer ta bouffe, pour payer ton char, ton gaz, tes affaires, au-delà de tout ça, au-delà d'une situation économique extrêmement difficile qui frôle la récession, faut que tu dégages dans ton année financière 60 000 de surplus pour le redonner au gouvernement pour avoir 20 000 de crédit. Non, ça peut être énorme là, pour des micros, des petites entreprises en termes de pourcentage de capacité. Là, c'est énorme. Il y a eu un mauvais calcul là-dedans, encore une fois, de l'incompétence du Christy Clown à Trudeau puis de son équipe avec Freeland de penser que quand tu t'appelles Pratt & Whitney ou quand tu t'appelles Pascal Derry avec son petit gym avec des jouets à Sainte-Julie, tu as le même montant puis tu as les mêmes conditions de remboursement. Ben moi, sur mon chiffre d'affaires annuel, 60 000, c'est énorme en pourcentage. Je suis prêt à être Whitney, c'est une coche dans leur, c'est une décimale dans leur Excel. Fait que c'est pas normal qu'on ait faire face à cette situation-là. Puis là, ça fait un lien avec ta situation avec le gouvernement. Il n'y a pas de voix pour nous autres, ou ceux qui parlent ne sont pas écoutés. Puis on a des cons qui sont à l'Assemblée nationale ou aux Assemblées nationales, qui n'ont pas d'expérience dans notre domaine, ou comme dans. Hey, c'est. Je parle du gouvernement, puis je viens vous dire une phrase qui a été entendue combien de fois dans le domaine de la santé, l'éducation, ou d'avoir des incompétents à cravate qui prennent des décisions, puis ils ont sweet effort d'idées comment ça se passe sur le plancher. Puis pire que ça, ils n'écoutent même pas sur le plancher. Puis la CAQ, là, pendant toute la pandémie, ça t'a sweet fuck all, là, nous avait des contacts, puis pourtant, il y en avait des gens qui voulaient parler, là, puis collaborer. Là, puis c'était non, on va s'en occuper, nous autres. C'est un des gouvernements les plus incompétents qu'on a eu dans les 60 dernières années, facilement, haut la main. Mais présentement, la réalité des entrepreneurs, oubliez pas ça, là. Ça continue à fermer. Cette année, c'est l'année que le jarret coupait. Puis l'année prochaine, ça va être pire. C'est à 25 % des entreprises canadiennes, selon les chiffres, là, selon la FCEI, qui risquaient ou qui allaient faire faillite au courant de l'année. Dans la restauration, c'est en train de passer à grade, je vous parle. Puis
c'est au Québec qu'il y en a le plus, à travers le Canada, c'est prouvé. Là. Mais tu sais, on est une économie de PME, puis c'est vraiment, la majorité, c'est des PME de moins de 50 employés ou moins de même 25 employés. Fait que c'est vraiment c'est avec des scènes qu'on fait des pièces, mais le problème, comme tu dis, on n'a pas toute la capacité financière de donner autant de cash d'actes de même. Là. Fait que ça scrapait toute la chaîne.
Ouais, puis t'as le colon, t'as le clown à Trudeau qui est venu à Montréal, là, peut-être 2-3 mois. Une réunion, une rencontre d'hommes d'affaires, whatever. On lui a posé la question, là, êtes-vous sensible au cri des micro-entreprises qui disent, hey, moi, payer 60 000 ou le 20 000 de plus que je pourrais avoir, là, moi, ça peut sauver un salaire, moi, ça peut sauver l'année scolaire à mon enfant, ou ça peut payer ici, ça peut payer ça. Puis sa réponse de cave, comme il peut l'être, ça a été, à un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. Puis ça, c'était noir sur blanc. Au pire, aller chercher sur Google, c'est noir sur blanc dans la presse. À un moment donné, faut qu'on passe à autre chose. Encore une fois, si t'es con, c'est ce que tu réponds. Si
Legault, c'est pareil. Vous parlez des vieilles histoires, là.
C'est ça, c'est des vieilles histoires. Mais c'est parce que quand tu as un salaire de 140 000, 200 000 par année, c'est ta réalité-là, là, tu flottes. Ouais. Là.
Ça fait longtemps que c'est plus ton domaine avant tout.
Oui, mais c'est ça. Si tu as une micro-entreprise dans laquelle il faut que tu mettes 70-80 heures plus juste pour la garder à bout de bras, puis dire « Hey, moi, je prends mon projet. Hey, moi, je suis passionné par ce que je fais. Hey, moi, j'aime la gang qui visite, la communauté que j'ai ici, puis je vais essayer de travailler fort pour la garder. » Sans sac, eux autres, là.
Ah oui.
Les autres, là, ça lit le petit livre plate, ça fume le soir sur le coin de la table, ça tape les affaires, puis ça passe à autre chose. Mais c'est puis ça, l'arrogance qu'on a aujourd'hui aurait pas lieu si on avait eu une oreille. Que tu sois un incompétent, au pire, je vais passer ça deuxième, si tu es prêt à écouter puis à mettre des choses en action. On a eu zéro de ça. Fait qu'il y a, il y en a présentement qui rushent un moyen temps, là. C'est des gens qui sont tellement des belles qualités, qui sont travaillants. Tu sais, si tu n'as pas la patience, tu n'as pas la résilience, si tu n'as pas la persévérance, la détermination, des Christy de belles qualités, oublie ça, tu meurs dans ce domaine-là.
Surtout qu'au Québec, gars, parce que tu pourras confirmer, autant que c'est ça, je n'ai jamais été entrepreneur, mais mon père, il travaillait à son compte comme laitier pendant quasiment 35 ans. Ben, je connais un petit peu quand même la rengaine. Il était son bras droit pendant longtemps aussi, puis j'ai dû le reprendre. Le gars a pris 8 semaines, il avait ses week-ends, mais il a pris 8 semaines de vacances en 35 ans de carrière. Il travaillait à son compte, c'est un peu ça. Fait que, dont 2 semaines que c'était moi qui le remplaçais sa ronde de lait parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le remplacer, là. Le jour du travail, ben on travaille, puis tu sais, les majorités des fériés, à part Noël à la limite, là, sauf la veille, on travaillait aussi. Fait que tu sais, c'était cet environnement-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que, me semble, puis je pense que c'est vraiment vrai, là, même, pas Fillon, mais voyons, Jean-Luc Mongrain en parlait il y a fort longtemps, je pense que c'est toujours ça. Au Québec, faut pas se le cacher, quand j'en parle, je dis tout le temps que le Québec est comme un genre de gros désert pour l'entrepreneuriat. C'est vraiment pas... On fait pas la promotion de ça. Au contraire, on a comme un genre de vieille mentalité qui vient un peu de notre héritage catholique qui dit que quelqu'un qui fait de l'argent, c'est sûr qu'il a dû fourrer ou crosser quelqu'un pour faire cet argent-là. Que faire devenir riche, c'est comme pas vu de manière... C'est pas vu comme de quelque chose d'honnête. C'est comme, ah, lui, là, il a dû sûrement voler l'argent des autres pour avoir ce cash-là. Puis on a vraiment un gros problème, le Québec, ou les Québécois en général, avec l'argent, ou avec la richesse en général. Et sachant qu'on a un gouvernement, justement, qui nous avantage plus souvent qu'autrement de scotcher à ses tétons, si on peut dire, là, tu sais, la gouvernement, puis finir, là. T'es comme la grosse truie, là. Puis, ah non, l'entreprise privée. Je suis tout le temps avec un gars. Quoi, du privé? Va des rétro-satanas, du méchant capitalisme. T'sais, fait que c'est, non, là, c'est le bon saint gouvernement qui va prendre la relève. T'sais. Fait que, est-ce que tu le sens de ton côté vraiment que autant que tu as. Parce que c'est ça qui est le plus fun, puis c'est ça que je dis tout le temps, c'est qu'au Québec, malgré tout ça, on a quand même des entreprises privées et des entrepreneurs qui réussissent quand même à fleurir. Je me dis, tabarouette, ça montre à quel point le Québec, de notre côté, est un peuple à part parce que malgré toutes les estis de bâtons qui nous mettent des roues, on est quand même capable de survivre puis de fleurir puis d'avoir quand même de la croissance. Tu
ouais.
Dis.
Mais c'est particulier. Il y a tellement de belles. De particularités pour le Québec. La plupart, à ma vision, sont négatives. Mais une des positives, c'est qu'on a une culture entrepreneuriale qui est extrêmement forte. Ça, tu sais, faut que tu t'en rendes compte. Pour t'en rendre compte, faut que tu sortes du Christie de village. Fait que, déjà ouais, là, si t'es Uniline, puis pour toi, tes vacances à Gaspésie, où je dépasse pas Gatineau parce que rendu là, c'est des étranges, oublie ça, je veux pas t'avoir dans le débat, t'as pas mérité ton droit de parole. Dire, hey, tu parles fort. Non, si tu restes dans un village, t'es ignorant, ferme ta gueule. Mais quand tu vas à l'extérieur, puis tu peux comparer les autres cultures, puis d'observer le monde, puis t'informer, puis t'intéresser, ben, tu peux te rendre compte de ce qui va mieux ici ou ce qui va pire ici. Il y a bien des affaires qui vont pire ici. Mais une affaire qui va mieux, c'est qu'on a vraiment une culture entrepreneuriale forte. Ce qui va pire ici, c'est qu'on a encore notre Christie de mentalité de taouin, de village, de le voisin d'en face, il y a ci, il y a ça, ben, de maudits villageois immatures, pauvres, une mentalité de pauvres. Tu sais, les francophones, ouais, là, étaient dans le prolétariat pendant longtemps,
ben oui,
malgré la révolution tranquille, puis les mesures étatiques de Jean Lesage pour émanciper les francophones, là, 50 ans, 60 ans, on a encore la même Christie de mentalité de pauvre, de prolétariat.
Ben, heureux les creux, le royaume des cieux est à eux, hein, tu sais, c'est surtout ça, là, ça se tique encore, même encore aujourd'hui.
Alors qu'on là, dit, il disait, il part tout le temps en vacances, ou il y a ci, il y a ça, ou c'est jamais moi, ou. Comme c'est si ça. faire. Il y a du capitalisme, comme si le mot capitalisme, ça veut dire profiteur.
Ça, ah oui, c'est ça.
C'est ça, man. C'est des rengaines que je faisais à la radio il y a 15-20 ans. Ça n'a pas changé, puis ça ne changera pas, parce qu'on est des villageois, la tête dans le CUL, puis au lieu de penser à progresser, on pense à s'ostiner encore à l'Assemblée nationale sous le Christie de français. Maintenant, aussi longtemps qu'on va faire ça, restons cons. Pour l'instant, il y a des gens... Comment?
j'ai le feeling, excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai le feeling que ça change tranquillement avec les nouvelles générations, sachant que justement l'avènement de l'Internet et du fait justement que là, le dôme il a fini par craquer, puis on a vu ce qui se passait ailleurs, là, puis de ma génération, puis tous ceux qui me suivent par en arrière sont de plus en plus bilingues. J'ai l'impression que cette vision-là va finir par se dissiper, mais je suis en accord avec toi, on a encore un bon bout à faire avec cette gang-là.
Oui, mais quand je vois qu'il y a un gouvernement comme la CAQ qui a sorti une des pires lois linguistiques depuis les débats avec Robert Bourassa, il y a 30 ans, il y a des compagnies qui ont décidé d'arrêter de faire affaire avec le Québec à cause d'obligations de certaines des obligations linguistiques. Quand je vois que là, on remonte avec le PSPP THX 3000 qui va revenir avec encore ce débat-là, puis là, tu sais, Là, on remet à la promotion des affaires qui ont été discutées là, 20 ans, là, 30 ans, là, 40 ans. Il n'y a rien de nouveau. Là. C'est tout du monde qui pense pareil. Puis le Québec, c'est tout le temps la même maudite affaire. Des ignorants politiques et économiques qui ont demandé de donner un T-shirt d'un bord de l'Assemblée nationale. Puis là, quand ils ne sont pas contents, 4 ans après, ils mettent le T-shirt de l'autre bord de l'Assemblée nationale. Ça fait ça depuis tout le temps. Puis en termes de changement d'idée, on a souhaité fort le changement d'idée. Si vous prenez 3 minutes de votre temps, puis vous faites une petite recherche politique, vous allez vous rendre compte que les gens présentement d'un parti à gauche pas à droite, là je dis d'un bord de l'Assemblée, puis l'autre bord de l'Assemblée avec le banc, pas une question d'idéologie, bien Christy, il y a 4 ans, il était l'autre bord, puis il était à gauche, puis il était ci, puis il était ça. La politique au Québec est un des seuls endroits que je connais que la politique est traitée comme le hockey, c'est dit. Alors, on échange le député d'Iberville du PQ dans 4 ans avec celui du libéral. Fait que là, c'est la même face, autre pancarte. Puis là, tout le monde fait comme... Personne réagit. On est supposé être en débat d'idées dans un parti politique, sacrament. C'est supposé être un branding. C'est pas supposé d'être une équipe, tu sais. C'est supposé avoir des idées différentes. Mais Christy, on est tellement masturbatoire dans nos idées que les gens qui se présentent en politique... peuvent avoir un bargaining deal d'un bord puis de l'autre. Ben, sacrement, si tu crois en tes valeurs puis l'autre cogne sa porte. Moi, demain matin, j'ai fait la campagne conservatrice aux dernières élections, puis je savais que je me battais contre le courant, c'est un moyen temps. Mais quand même de la CAQ frappait à ma porte, disait « Hey, Suzanne Roy, ça ne représente pas, on aimait ça, tes pancartes, ta valeur jeune. Vas-tu embarquer avec nous autres? Hey, c'est 140 000 piastres, là. Tu pourrais faire une différence dans la société. » Si je dis oui, j'ai l'air de quoi? Je dirais pas oui. Si je crois pas en votre système, je suis pas vos valeurs. C'est ça l'opportunité. Puis après ça,
c'est-tu Sam Hamad qui est venu te voir? Parce que me semble que t'as une bobée
C'est une voix que j'ai sortie de même. Dans ma tête, il y avait quelqu'un qui frappait à la porte. Clong, clong, clong.
Hey, bonjour, je représente la coalition Avenir Québec. Là. On a bien aimé ta dernière campagne. T'avais l'air swell. Tu veux-tu représenter la CAQ aux prochaines élections?
Mais il y en a combien qui disent oui pour avoir la. Il y en a combien? Il y en a en sacrifice.
Ah oui, en tabarouette.
Qui disent oui à cause de l'argent. Puis même dans mon organisation, là, un moment donné, il fallait que je me signe avec du monde dans mon organisation. Parce qu'on me disait, ben là, faut que tu penses un peu à ton image, faut que tu sois ici. Tu sais, faut que tu penses que si tu es élu, c'est 140 000 $ par année. Pour ma réponse, elle dit, je m'en contre, liste du 140 000. Pas pour ça que je vais là, sacrement. Je commence à penser aux 140 000, c'est là que je suis déjà corrompu en partant. Je vais là pour changer les choses. That's it. Mais du monde de même, il y en a peu ou pas à l'Assemblée nationale. Ou peut-être qu'il y en a, mais ils sont vraiment juste pas bons.
Puis me dire comme Yann, c'est beaucoup une guerre d'ego puis des gens qui sont pas tellement aimés dans la vraie vie puis ils ont le goût de se faire aimer tout d'un coup.
C'est l'image qu'ils me donnent. Désolé, mais j'ai pris assez de temps dans ma vie pour écouter les assemblées nationales à TV. Puis ça, faut vraiment que tu n'aies rien à faire. Mais j'ai fait un bout, je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai assez fait pour me rendre compte à quel point c'est un jeu de clown. Et si vous voulez savoir ce que votre argent est en train de payer, là, c'est votre devoir de citoyen d'aller sur le channel de la SNAP puis regarder à quoi ça ressemble une journée d'échange entre ces clowns-là pour vous rendre compte qu'ils mettent un tipit dans le milieu, c'est un gros banc. Puis là, faut que tu parles au tipit dans le milieu qui est sur le gros banc parce que tu n'as pas le droit de parler en ligne directe parce qu'il faut être poli et protocolaire.
Monsieur le Président, le propriétaire de l'Iberville, là, avec ses idées, là, ben moi, là, c'est fourbu, puis je veux le rappeler que, là, 25 ans,
son parti avait dit ci puis dit ça. Tout le monde ça fait oh, 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 oh. Les mots, là, l'autre côté, ça fait un bouh! Oh, 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 oh! Je suis outré! Là, l'autre frappe.
Là, c'est moins qu'avant parce que. Hein? Parce que je peux. Juste pour peut-être un petit correctif, à la SNAT, c'est les moins à ce temps, depuis genre, je pense que 4-5 ans, ils ont interdit les applaudissements. Là. Mais aux communes, c'est
juste. Ce
oh, oui, parce que justement. Parce qu'ils se rendaient compte que justement, durant la période de questions, à toutes les fois, quelqu'un posait une question, puis il répondait, il applaudissait, puis il se rendait compte qu'il perdait quasiment, je sais pas, quasiment le cinquième de la période de questions en applaudissements, puis le monde ne répondait pas aux questions. Fait qu'ils ont dit, crème, on va enlever les applaudissements, comme ça, toute la période de questions soit focusée là-dessus.
Ah, pas c'est ça pas
au oh, ben, pour être bien franc, c'est rendu plate, encore plus plate à écouter, là, pour être bien franc, mais au commun, c'est encore ça, là. Tu sais,
il n'y a plus ça. De table sur le bureau, là.
Non. Non, non, parce que surtout que le gars de la régie, il sent ta barouette parce que les micros sont super sensibles là-dessus, puis sont tous ses bureaux. Et quand tu cognes, lui, ses oreilles saignent en calvaire. Quand je fais les simulations parlementaires, c'est ça qu'il nous dit, qu'on n'y ait pas ses bureaux, vous allez vous le mettre à dos, le gars du son.
Le gars du son!
Oui, parce que vous ne le voyez pas, parce que dans le fond du... Dans un des coins, parce que tu sais, la SNAT, t'as comme la porte principale, puis au bout, t'as, justement, t'as le siège du président, t'as les bureaux de chaque bord. Sur un des coins aussi que l'angle de la caméra ne voit pas, il y a vraiment un genre de petit bureau élevé un peu. Ça ressemble quasiment comme la chaire d'une église. Hein. Puis aussi qu'elle prête à aller pour faire son allocution. Mais là, c'est vraiment le gars avec, sa régie qui est là. Mais c'est pas juste lui qui est là. Supposément que toute la régie interne des caméras, ça se fait dans le building d'à côté, communément appelé le bunker. Là, l'autre bord de la rue, supposément. C'est ça, lui. C'est spécial.
Complexé, c'est pas ça. C'est le cas, c'est...
Non, c'est vraiment sur le côté, l'autre bord de Grande
Allée. Ouais, le bunker.
C'est ça, aussi que le conseil du trésor. Là. Ouais.
Fait que c'est l'image que ça représente. On est parti dans un champ gauche, puis un champ droite. Mais si on revient sur l'idée de l'entrepreneuriat, si on fait comme qu'on revient, la réalité au Québec, elle est extrêmement difficile pour l'acceptation sociale puis la prétention qu'on Christi qu'on est prétentieux. J'ai de la misère à respecter le Québec ou les Québécois, surtout francophones, de la misère, c'est gros, mais c'est tellement pas mes valeurs. La plaventrisme, on chiale tout le temps, on est tellement réfractaire à tout.
C'est ça, on est un peuple pantouflard, faut pas se le cacher. Ben, regarde, le meilleur exemple, autant que ça compte pas juste le Québec, parce qu'on parle de fonctionnaires fédéraux, mais tu as dû voir ça, la nouvelle hier, les employés fédéraux, il faut que le gouvernement lui demande de rentrer au moins 3 jours au bureau, parce qu'il travaille tout en télétravail, mais on lui demande de rentrer 3 jours au bureau. Ah là, les syndicats puis tout le monde, ah, ça n'a pas de bon sens, il va falloir que je me lève, il va falloir que je prenne ma douche, il va falloir que je mette mes souliers. Ah non, c'est... M'a dit comme Denis Gravel, le côté pantoufleur des Québécois, comme je dis souvent, il dit, au Québec, il y a un risque à essayer le nouveau ketchup. c'est un peu ça, dans le sens que, tu sais, tant, genre, ouais, on est dans nos habitudes, puis regarde, je suis le first gars qui dit que je plaide coupable, moi, tout, j'ai mes habitudes, puis je me force à sortir de mes carcans à moi, puis j'ai déjà mes troubles là-dessus, mais c'est ça, c'est partie de notre ADN, malheureusement, là, pour le meilleur et pour le pire.
Tu sais, c'est pas... En même temps, c'est une claque en arrière de la tête, mais c'est un moment donné, c'est aussi un appel au réveil. Là. Parce que je me souviens qu'on avait un super beau projet du Cirque du Soleil. Ça fait peut-être 15 ans, là, de ça, peut-être 20 ans. Une revitalisation d'un certain quartier à Montréal. Puis les plans, le sketching, le design, tout est sorti. Puis c'était énorme. Là. Il me semble que c'était en banlieue du casino. Mais si là je mets. Peut-être que là, je m'échappe. Là. Puis je me souviens qu'il n'y a pas eu d'acceptabilité parce que ça déplaçait, c'était un quartier pauvre, ça revitalisait le quartier pauvre, mais je me souviens qu'il y avait eu une non-acceptabilité parce que ça allait déplacer la pauvreté dans d'autres quartiers, mais ça aurait pu être... Puis là, j'ai pas les détails, si j'ai tort, vous me corrigerez, mais ça aurait pu être un projet rayonnant d'importance auquel on a dit non. Tu sais, c'est un gars comme Guy Laliberté, un gars de Baie-Saint-Paul qui a parti du cirque. Le gars, c'est pour te dire, là, on a un gars de Baie-Saint-Paul, un clown, qui est maintenant une...
Il est allé dans l'espace.
il est allé dans l'espace, mais je veux dire, c'est une référence mondiale maintenant pour l'art circassien. Tu sais, tu leur dis « Cirque du soleil », c'est partout.
Ouais, « Cirque du soleil ».
Là, ça a l'air facile parce que c'est ça qui est ça, c'est de même. Ah, oh, la vie a tout le temps été comme ça parce que j'ai 30 ans d'expérience de vie, puis je connais ça depuis que j'ai 30 ans. Puis ça a tout le temps été ça. Ça doit être facile. Ça a tout le temps existé. C'est comme le bœuf à l'épicerie. Me présente à l'épicerie, as-tu bœuf? Je rouvre la TV, on va faire un pestaque, et Cirque du soleil. Ah, c'est facile, ça a tout le temps été là. Mais Chris, il y a bien un gars à Baie-Saint-Paul qui a décidé à un moment donné, hey, il m'a offert des pestacles différents, moi. Il m'a poussé ma vision. Puis là, c'est rendu une multinationale. Une multinationale, d'ailleurs, qu'on a perdu à l'étranger. Parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Là. Puis c'est André Arthur qui le disait, que les entreprises au Québec ont de la misère à passer à la troisième génération. La première génération, mettons, comme dans la situation que je suis là, c'est les gens qui bûchent, qui grind, qui sont là pour la passion, qui mettent les graines pour les racines du projet, qui passent matin, midi, soir dans leur projet, fait qu'ils sont dédiés complètement. Puis souvent, ils ont leur famille dans cette réalité-là. Fait que les enfants connaissent la croissance, la première progression de l'entreprise, mais sont impliqués dans l'entreprise. Ils sont impliqués parce qu'ils aident papa, ils aident maman. Ils travaillent leur travail d'été, c'est dans l'entreprise, ils vont voir leurs parents grinder, mais ils vont être dans un certain confort. Ils auront pas ils vont être protégés du stress de la survie, premièrement. Ils vont être protégés du stress de la viabilité, le premier fameux 5 ans de grind qui peut être atroce. Mais là vient la troisième génération des petits-enfants qu'eux autres naissent dans une entreprise qui est bien établie, qui roule bien. Les grands-parents sont à retraite ou proches d'eux. Les parents bûchent beaucoup, mais pas tant que les grands-parents parce que l'entreprise roule bien, il y a les employés, ça grossit. Fait qu'arrive la réflexion du choix de carrière des petits-enfants, puis ils ne voient pas comme s'ils doivent contribuer au projet familial, puis qu'ils peuvent faire d'autres choses leur vie. Fait que c'est là qu'on a perdu Rona. C'est là qu'on a perdu Saint-Hubert. On a perdu ça à la troisième génération, entre autres. Des gens qui font comme, ben on ne reprend pas ça, on n'a pas besoin, nous autres. Parce qu'à mon souvenir, c'était
notre deux entreprises. Le cash est fait, hein?
Ben, le cash est fait, nous, on peut faire d'autres choses. Puis souvent, peut-être vont avoir des parts dans l'entreprise, soit que c'est fait de famille en famille ou peu importe. Ils ne voient pas l'importance de s'impliquer, ils n'ont pas compris ce grind-là. Donc, on a vécu du côté institutionnel. Faire des affaires au Québec, c'est extrêmement difficile. Puis si tu es dans l'exploitation énergétique, je veux même pas penser à quel point ça peut être du gros caca faire affaire au Québec. Tu sais, on se souvient des gaz de schiste, là? On n'en parle plus, hein? C'est comme si ça n'existait plus.
Non.
Mais j'ai eu dans mon temps à XM, j'avais interviewé un des propriétaires d'une des entreprises là, qui avait les puits de test, là, les petits forages de test d'évaluation avant que
pas, celui qui avait parti ça au Québec, c'était André Caillé, là, il y a longtemps. Là. Je ne sais pas si c'était lui qui...
Non, c'était une entreprise anglophone, je pense.
OK.
C'est encore pire, c'est des méchants, ils parlent anglais. Puis quand je les avais eu en entrevue, le propriétaire était justement dans un comité international sur les combustibles, les énergies en Inde. Puis en Inde, c'est une des sources d'énergie les plus exploitées, le gaz naturel, dans leur transport public, entre autres. C'est ce qui parlait un peu de la technologie, c'est qu'on avait peur de la technologie ici. C'est comme le pipeline, c'était la même chose, on avait peur de la technologie. Il y a un gros phénomène de village qui fait qu'on a peur. Le projet du Cirque du soleil, on avait peur de l'effet que ça allait avoir sur les populations du quartier où le projet était pour lequel le projet était dédié. Fait qu'on a beaucoup de peur ici. Puis il y a toutes les étapes de permis. Puis tu sais, les taxes, les impôts, c'est énorme là aussi. Là. C'est les étapes bureaucratiques. Je vais te donner un exemple. Il y avait un projet de subvention. On va finir avec ça. On run long avec notre exposé peut-être aujourd'hui. Mais j'ai appliqué pour un programme de subvention pour le tournage numérique des entreprises pour lequel j'ai été accepté. C'est un projet qui était...
Maudit traite, têteux de subvention.
Ouais, c'est ça. Ben, à un moment donné, il en faut, gang, parce que
je serais pas
en train de survivre. Puis présentement, je pourrais dire que ce montant-là est, un, très minime. Puis deux, le reste, je peux te garantir, c'est pas mal des prêts. Je vois la chute d'intérêt que je paye à tous les mois. Là, je peux te garantir que présentement, la Banque du Canada a même. Fait que faites-vous en pas. Je roule pas sur votre argent, gang. Je la fais bien comme du monde, la mienne. Mais ce projet-là, pour vous dire, où c'est pour aider les entreprises à prendre un virage numérique, c'est pas un gros montant, mais pour une micro-entreprise, t'as hâte que le montant rentre. Man, ça a pris des semaines, là. Je pense 2-3 mois, là, passer la date d'échéance avant de recevoir tout ça. Parce qu'à l'interne, la bureaucratie, les papiers, les formulaires, on a reçu votre papier. Oh, on a changé de responsable. C'est rendu ce responsable-là. Ah, oh, c'est quoi votre dossier? Faut que tu rappelles. C'est ça tout le temps. Puis dites-moi que là, je vous parle, puis ça vous représente pas à chaque fois que vous voulez parler à quelqu'un à Revenu Québec. Mais du côté provincial, c'est beaucoup plus difficile qu'au côté fédéral. En tout cas, dans mon expérience, au fédéral, j'ai un meilleur service. Au provincial, Christy, c'est long. C'est long, c'est compliqué. Et tes notes au dossier, ils prennent pas. Mais il y a tout ça, là. Puis moi, je suis juste un petit, là. Les conséquences sont plus ou moins grandes. Mais quand ça doit être une grande entreprise, une moyenne entreprise, ces réalités-là au quotidien doivent te miner. Ça doit, tu sais, une petite erreur doit coûter beaucoup plus cher. Ou un délai doit coûter beaucoup plus cher. C'est cette réalité-là qui fait que c'est encore plus difficile. Fait que, tu sais, c'est un gros hommage, en fait, aujourd'hui aux micro-entrepreneurs, aux petits entrepreneurs qui vivent dans cette réalité-là au quotidien puis qui, malgré les grosses embûches, les permis, la bureaucratie, la non-acceptabilité, le jugement du voisin parce que tu pars, selon lui, un petit peu trop en voyage, puis qui voit pas que toi, tu as 80 heures de semaine de travail à tous les semaines, tout le temps, puis un stress, puis un cerveau qui arrête jamais. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes relationnels, les entrepreneurs, ou des problèmes de sommeil, entre autres. Tout ça, là, c'est un gros bravo. Puis continuez à passer à travers de ça. Puis ceux qui sont pas dans cette réalité-là, essayez d'être un peu plus empathique et de comprendre ça. Puis peut-être qu'aujourd'hui ou demain, vous allez aller dans votre commerce local là, que vous encouragez depuis X, Y mois ou année. Puis félicitez-les d'être encore là depuis 5, 10, 15, 20 ans. Il y a énormément de travail. Ou à un moment donné, piquer une jasette, t'es en train de faire tes ongles, piquer une jasette de demander comment elle a parti sa shop à ongles ou son salon de coiffure. Ou vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail là-dedans. Moi, je trouve ça très inspirant, ces personnes-là. Fait que félicitations à vous. Lâchez pas votre travail. Puis on vous souhaite que quand vous aurez assez de liquidité dans le compte de banque, bien, regardez donc s'il y a d'autres places où vous pouvez emmener votre expertise pour avoir une vie plus facile. Parce qu'il n'y a pas juste la réalité du Québec. Puis encore la limite de la langue. Il y a des choses qui peuvent être faites ailleurs. Regardez si vous pouvez être heureux ailleurs. Même ouvrir une business aux États-Unis. Il n'y a pas quitterlequebec.com. C'était un site web, ça. Il y avait une gang qui faisait ça. Oui. Donc, ça peut être une ressource aussi, là. Mais si vous pouvez être plus heureux ailleurs, tant mieux. Donc, l'idée de l'exposer aujourd'hui, c'est de vous exposer ça, de ventiler un petit peu, vous exposer cette réalité-là, et d'avoir un gros high five aussi à tous ceux et celles qui, depuis la pandémie, rush encore, rush toujours. Ils n'ont pas à vous le cacher, mais en même temps, ça ne vous regarde pas. Là. Mais leur réalité en arrière n'est peut-être pas aussi rose, aussi facile que vous le pensez. Qui gardent encore un sourire au travail, qui gardent encore leur qualité de service du mieux qu'ils peuvent malgré les ressources humaines qui sont vraiment très difficiles. T'sais, continuez le grind, félicitations. Puis tous les commerçants, félicitations. Et tous les consommateurs, prenez le temps peut-être aujourd'hui de féliciter votre commerçant local parce que sa réalité, pour sûr, elle est assez difficile au jour le jour. Puis le peu qu'ils ont, ils l'ont très fièrement mérité.
Absolument. Que dire de plus?
Écoute. Pour tout le monde qui avait rien à dire un matin, on s'est débrouillé pendant 48 minutes.
It's part of the job.
Part of the job. Fait que c'est ça, gang.
Yes. Passez un bon week-end, tout le monde.
Absolument.
Bye-bye.
Bye.